France Musique.
Merci Philippe Cassard, on vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle note du traducteur.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Le cri du patchwork.
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui défriche l'indéchiffrable. Troisième épisode de notre série sur le bruit. Après avoir suivi le chemin bruité du compositeur François Bell lors de notre première émission du mois de mars, nous nous sommes baladés entre musique bruitiste et bruitage de fiction avec notre invitée Sophie Bissens. Eh bien aujourd'hui, partons ensemble à la découverte des bruits que font nos disques. Enfin, plus spécialement le disque vinyle. Cette galette noire bourrée de parasites que le numérique a progressivement gommée. Et c'est le compositeur et DJ Gwen Jamois qui nous accompagnera dans cette découverte des capacités sonores du disque, en tant qu'objet et non plus comme diffuseur de sons enregistrés. Et comme chaque samedi, un zoom sur une œuvre de la fin du XXe siècle et un son pioché dans notre oreille. Le cri du patchwork, thème numéro 7, épisode numéro 3, séquence numéro 1.
Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Le mirliton, cette fine membrane excitée par les vibrations d'un autre son, comme lorsque l'on chante dans un casou, tel que dans « Mass » de Leonard Bernstein, que l'on vient d'entendre. Le principe du mirliton permet simplement d'ajouter un son sur un autre son. Avec le casou, la vibration du papier donne une sorte de timbre d'instrument à vent, à n'importe quelle voix. On peut en faire l'expérience avec du papier et un peigne posé sur la bouche. Et il y a des virtuoses du casou. Imitant à merveille les inflexions d'une trompette, par exemple, comme dans le groupe Washboards Serenaders, des années 1930. Le casou est un instrument qui ne nécessite aucune technique particulière, sinon vocale. Quelques exemples de son utilisation dans la pop, principalement anglaise, et c'est peut-être un signe.
Yeah.
of the Great Society.
Excusez-moi, j'ai dérapé sur le dernier. Alors, dans le désordre, Jimi Hendrix, les Stones, les Beatles, Queen, Pink Floyd, Frank Zappa et Joe Dassin. Chasser l'intrus. Dans tous les cas, le mirliton ou kazoo reste associé à un esprit comique, voire grossier, comme nous le dit parfaitement Maurice Chevalier.
Ah, vous allez peut-être me traiter de cabotin, vous savez. Si vous saviez le bonheur que j'éprouve à chanter ce refrain, comme j'admire ce mot, mirliton, comme c'est fort, comme c'est profond. Mais vous verrez que les mirlitons deviendront une espèce de Marseillaise, mais oui, et que l'année prochaine, vous entendrez chanter à tous les coins des rues. Mais où donc fabrique-t-on les mirlitons, les mirlitons, les mirlitons, les mirlitons, ton 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 la gare. Mais où donc fabrique-t-on les mirlitons, les mirlitons, les mirlitons, où les fabrique-t-on, ton ton.
Jouer du mirliton, c'est jouer ou chanter du nez, produire des sons de canard comme il en sort de la flûte à l'oignon. Cette définition de 1892 dans l'argot musical de Émile Gouget fait apparaître le premier nom du kazoo, flûte à l'oignon. Oignon parce que la membrane au départ était une pellicule d'oignon. Flûte, eh bien ça, c'est une erreur, car le kazoo n'est pas une flûte. On peut faire des mirlitons avec toutes sortes de membranes, comme dans le Nyastaranga, mirliton d'Inde, constitué d'un long corps et d'une embouchure dotée d'une membrane en toile d'araignée, enfin plus précisément en cocon d'araignée. Le Nyastaranga est posé sur le larynx. Ainsi, le chanteur a toute la liberté d'exécution avec la bouche. En voici un virtuose, Manar Barvé. Il est des instruments conçus avec mirliton, comme le sudrophone, inventé par Jean-François Sudre, sorte de petit tuba avec mirliton. Le brevet, déposé en 1892, indiquait que le sudrophone était destiné à imiter le violon ou le violoncelle. Bon, c'est complètement loupé, mais on appréciera l'expérimentation de Sudre, ici joué par Volny Ostiou sur un instrument du Musée de la musique à la Philharmonie de Paris. C'est intéressant de voir comment la manière de parler de cette vibration a changé dans les discours musicologiques au cours du XXe siècle. Pendant longtemps, tout ajout de mirliton ou de vibration perturbatrice d'un son pur était considéré comme un parasite. On parlait alors de son bruité, par exemple dans les cultures africaines, friandes d'instruments avec mirliton. Aujourd'hui, grâce à l'ethnomusicologie et au déplacement de notre point de vue ethnocentriste, on parle de son épais, de sons complexes ou de sons filtrés, comme si le mirliton était assimilé aux effets des musiques électroniques. Et c'est vrai qu'à l'écoute de ces chants de la population baoulée de Côte d'Ivoire, on a l'impression que les voix ont été traitées en studio. Mais pas du tout. Le mirliton, ou l'art de l'effet sonore sans électricité. Dans Appel, composé en 1974, Michael Levinas place les pavillons des cors et autres trombones devant des caisses claires, dotées d'un timbre, un mirliton en métal qui vibre contre sa peau inférieure. Et les sons des cuivres mettent alors en vibration ce mirliton, épaississant et complexifiant au maximum le son des instruments. Le mirliton devient ici une saturation naturelle et acoustique. Dans la culture occidentale, la facture instrumentale a progressivement supprimé tous les bruits considérés comme parasites. Il suffit d'écouter les reconstitutions de harpes du XVe siècle, dotées de crochets, créant un zingement si particulier, que finalement recherchent aujourd'hui les compositeurs lorsqu'ils utilisent des instruments de l'orchestre. Il y a des cultures qui, elles, ont conservé ce goût pour le son épais, ce mirliton. Comme la culture chinoise avec sa flûte didzi, sans doute la plus ancienne flûte traversière connue. Sur un des trous de l'instrument est posée une fine membrane de bambou. Vibrant selon la puissance sonore de l'instrument, le discret son du mirliton devient alors un ornement délicat. Le mirliton s'est transformé un timbre en un autre, par l'ajout d'un bruiteur, pardon, d'un autre son. Et très tôt dans le piano, on a eu ce désir d'ajouter des objets, des papiers, pour créer d'autres couleurs. Et ce, dès l'âge d'or du piano, le pianoforte. Le jeu de basson, par exemple, consiste en un bout de parchemin venant se poser sur les cordes graves de l'instrument, imitant plus ou moins le basson. Thank you. Lors de la création du Piège de Méduse, ballet d'Éric Satie, des témoins racontent que l'on avait pris le soin de glisser des feuilles de papier entre les cordes du piano pour donner à l'instrument une sonorité de paille. Le piano, ainsi préparé, devient un creuset de timbres totalement inouï. Il a été reconstitué dans l'enregistrement que l'on vient d'entendre par Alexandre Tarot pour tenter de recoller à l'univers de Satie. Finalement, le piano préparé, on aurait pu l'appeler le piano à mirliton. Dans la lignée du piano préparé de John Cage, insérant boulons et gomme dans l'instrument, les improvisateurs usent de trouvailles multiples pour créer un piano multiple. Comme la pianiste Sophie Agniel, qui transforme son instrument en boîte à bruit, à souffle, à mirliton. Pour terminer cette sonothèque mirlitonnante, une curiosité. With 100 Kazoos, œuvre de David Bedford, composée en 1971 pour une commande de la BBC, dans le but d'être dirigé par Pierre Boulez. Bedford prit le parti de confier 100 kazous au public pour le faire participer à la création, dans le but d'imiter les phrases données par les instrumentistes, jouant à partir de dessins et autres partitions graphiques. Pierre Boulez refusa de diriger la pièce, alors pas à cause des kazous, mais de la participation du public. Le résultat dans cette captation télévisuelle de la BBC est déconcertant. Est-ce génial ou totalement raté ?
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Gwen Jamois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes compositeur DJ et je vous invite pour parler ensemble de votre objet de travail qui est tout simplement le disque. Vous travaillez uniquement sur des vinyles en général?
Non, mais c'est quand même mon support préféré, c'est ce qui me fascine. Je dirais même pas le disque, le micro-sillon. C'est quelque chose qui est malléable, c'est quelque chose qui est vivant, c'est un objet qui me fascine et qui me séduit.
Qui vous tente aussi?
Ah oui, bien sûr. Et qui me cause beaucoup de problèmes aussi, mais bon, ça c'est...
Parmi ces problèmes, est-ce que les bruits du vinyle sont des problèmes ou sont-ils des atouts du vinyle?
Il peut être les deux justement, et c'est ça qui est chouette, car c'est un support physique vivant, c'est un support qui change, qui se marque, qui vieillit, comme nous tous. Alors, beaucoup de mes collègues m'engueulent parce que je joue souvent des disques qui sont trop abîmés, mais ça ne m'embête pas du tout, je trouve que c'est la vie, et voilà.
C'est vrai que dans l'histoire de l'enregistrement, en fait, arriver au moment du CD avec cette perfection que l'on cherche, ça fait quand même plus de 100 ans d'enregistrement de son avec Parasite.
Oui, mais c'est quand même une fausse perfection. Le CD est nettement inférieur au vinyle d'un point de vue restitution sonore. Le CD, je crois que c'est 44 100 kHz, comparé au vinyle, qui est, d'un point de vue moléculaire, plusieurs millions de fois ça.
Donc il y a une plus grande précision dans la restitution des timbres, finalement, des instruments.
Bien sûr, bien sûr. Et ça ressemble beaucoup plus à la façon que nous, on entend le son, et notre environnement sonore et notre vie sonore. Le vinyle est beaucoup plus proche que le CD. Le CD, c'est... En fait, ils ont décrit que c'était le minimum avant que ça soit reconnaissable comme un enregistrement sonore. Et en fait, l'oreille écoute en sample par seconde, je crois que c'est infini.
Dans cette idée de l'infini, là, vous êtes venu avec un enregistrement historique qui montre qu'on s'est posé la question de graver, d'avoir une mémoire de notre environnement. Il date de 1860, c'est-à-dire beaucoup d'années avant que Thomas Edison a inventé son système d'enregistrement.
Je crois que c'est 17 ans avant, justement.
17 ans avant.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient un petit peu de nulle part. Et c'était un enregistrement qui, jusqu'à pas si longtemps, était totalement ignoré. Enfin, un procédé qui était totalement ignoré. Le phonotographe. C'est assez simple comme procédé, c'est un genre de disque avec du papier qui a été moulé autour de ce disque et avec une grosse trompette, avec une aiguille à la fin, qui grave ce papier et à l'inverse, qui relie cette gravure.
Donc là, on va écouter une reconstitution, une lecture de ce papier gravé.
Voilà, c'est pas une reconstitution, c'est le même papier.
C'est le même papier.
C'est le même enregistrement qui date... De 1860, excusez-moi.
Donc un papier gravé par Édouard Léon Scott de Martinville. Au clair de la lune, enregistré en 1860. Gwen Jamois, merci d'être venu avec une petite perle comme celle-ci. Donc c'était un extrait de Au clair de la lune. En fait non, c'est l'enregistrement intégral.
Intégral, oui. Bah,
il est coupé en plein milieu d'une phrase.
En fait c'est un cycle de cette timbale avec ce papier autour, c'est très rapide. Il le jouait à une autre vitesse, on a cru que c'était une femme, mais en fait c'était lui-même.
C'est lui-même qui est
C'est lui-même.
Donc nous sommes en 1860,
voilà.
Et là avec cet enregistrement-là, en fait ça nous ouvre la voie de cette matière sonore qu'il y a dans l'enregistrement même,
voilà.
Qui va aujourd'hui, qui est extrêmement utilisée par les compositeurs musique concrète ou musique expérimentale.
Bien
sûr. Tout ça évidemment fait partie de l'histoire de l'enregistrement, c'est comment ces parasites, on a essayé de les gommer au fur et à mesure.
Ce qui est dommage, parce que bon, c'est vrai que ça peut être des nuisances. Si on écoute certaines choses, on a envie justement d'avoir cet espace. Mais le vinyle en bon état ou le micro-sillon en bon état, non seulement à risque de rajouter ces parasites, mais surtout à une vraie chaleur, une vraie présence. Souvent, les collectionneurs et les grands amateurs d'opéra coûte des 78 tours, parce que justement, il y a une qualité sonore. D'accord, il n'y a peut-être pas autant de dynamique et autant de clarté, mais il y a une chaleur qui est, et une présence, c'est important de dire ça, qui est très importante. Après, on est quand même là pour parler du bruit, et c'est vrai que le vinyle est un outil quand même malléable, qu'on peut jouer avec et le trafiquer, et qui donne toutes ces couleurs qui sont, pour moi, très très utiles dans ma création et dans mon jeu avec les disques, etc.
Dans votre collection de vinyles, vous avez des petites perles qu'on ne peut pas trouver partout, vraiment. Et c'est un peu la particularité des DJ en général, c'est que vous êtes des fouineurs de notre mémoire de vinyle. Et vous êtes venu ici avec deux disques, et en particulier, c'est le prochain, là, qui est le rock du rock.
C'est ça, je pensais que c'était important de rajouter un côté ludique au bruit dans la musique. Aussi, non seulement sur le support, mais dans la musique même. Parce que le support a assez mauvaise réputation, et le bruit a très mauvaise réputation aussi. Les gens fuient le bruit, généralement. Et c'est un disque assez intéressant, c'est un disque publicitaire, créé par une boîte française qui était assez étrange, qui travaillait pour beaucoup d'industries, à créer ces disques promotionnels qui étaient à la mode à l'époque. C'est une boîte qui s'appelle Multitechnique, qui, au parallèle aussi, faisait beaucoup de musique expérimentale, notamment beaucoup de poésie sonore. Toutes les éditions du magazine ou cinquième saison de Henri Chopin étaient produites par Multitechnique. Et ces disques promotionnels, souvent, sont des bijoux de... Ils sont juste rigolos. Et celui-là en fait partie. C'est un disque pour perceuse.
le rock du rock, un arrangement de Mario Pagaro, mélodie pour cet instrument et marteau perforateur. Alors dans un disque que nous a amené Gwenjamo, notre invité du jour, je vous lis quand même le petit paragraphe qui est juste en dessous l'annoncé du morceau, c'est « Nous vous présentons ici nos recherches sur le ton de l'humour, mais n'oubliez pas que le problème du bruit est un problème grave, et c'est sérieusement que nous l'avons étudié, et nous vous proposons des solutions efficaces, renseignez-vous ». Alors ça c'est un disque promotionnel pour mettre en garde contre le bruit, mais aussi pour vendre en fait finalement des nouvelles perceuses.
Exactement, qui ont été soniquement améliorées. Et c'est vraiment une drôle de compagnie, on en parlait tout à l'heure. Le label qui a sorti ce disque faisait que des disques de pub, sauf des disques de poésie sonore, ce qui veut dire Henri Chopin, Bernard Heitzeck, etc. Ce qui est vraiment surprenant. Et voilà, encore un bijou du monde du vinyle. Et tout à l'heure, tu disais, ces disques, on ne trouve pas partout. Ben non, au contraire, on les trouve partout. Il faut juste les chercher et ouvrir les yeux et puis être un petit peu curieux. Ils sont là, ils sont autour de nous.
Oui, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais dans la quantité de vinyles qui ont été créés, parce qu'il y avait une période d'or du vinyle, on n'arrêtait pas d'en presser par milliers. Aujourd'hui, on en a des quantités qui se retrouvent dans les brocantes et qui sont comme ça jetées. Alors que pour des gens comme vous...
Même dans les poubelles, hein, on les trouve. voilà. Je ne fais pas trop les poubelles pour trouver des disques, mais ils sont partout. Et justement, il y a ces disques totalement ignorés, oubliés, qui ont besoin d'une seconde vie.
Dans l'histoire du bruit... Oui. Revenons justement à notre sujet du bruit. Là, on parle des dangers du bruit. On a écouté un enregistrement d'Au clair de la lune de 1860 où le bruit fait partie de l'enregistrement. Ensuite, le bruit, on peut aussi le musicaliser, vraiment en faire un orchestre de bruit. Alors, on pense à Luigi Russolo avec ce qu'il a fait dans 1913 avec l'art des bruits. On en a parlé dans notre première émission. Là, vous êtes venu avec un extrait d'une œuvre de Rolf Liebermann, qui était le directeur quand même de l'Opéra de Paris il y a quelques années. Et une pièce qui est assez incroyable de sa part, on n'aurait pas pensé ça, c'est la Symphonie des échanges.
Alors encore une fois, on rejoint la mauvaise réputation du bruit, ce qui veut dire le bruit de tous les jours, le bruit qui nous agace, qui est assez d'actualité. Et Rolf, Monsieur Liebermann, nous montre que ces machines peuvent être musicales. Ces machines qui nous agacent tous les jours et qui nous abîment les oreilles, véritablement, là, elles deviennent une petite symphonie avec un son ultra moderne. Parce que souvent, on utilise le bruit dans la musique de façon rythmique. Percussive, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on connaît.
Oui, parce que les percussions, en fait, dans un orchestre, sont considérées comme des appareils à bruit. Parce que voilà. Tout ce qui est bruit est considéré comme bruit, ce sont des sons qui utilisent toutes les partiels, tous les harmoniques existants. Donc, voilà. Par exemple, la maracas, les tambours sont des bruits, sont considérés comme des bruiteurs. Et là, il va plus loin, c'est-à-dire qu'il va prendre vraiment des objets qui font des bruits dans notre quotidien.
Alors oui, c'est une symphonie de 156 machines. Alors, il y a tout ce qu'on peut trouver, justement, dans un bureau moderne, ou bon, un bureau moderne de 64. Machines à écrire, calculatrice, caisse enregistreuse, klaxon, téléphone, monte-charge, etc., etc. Et écoutez ça, c'est fantastique.
la Symphonie des échanges de Rolf Liebermann, composée en 1964. Nous sommes ici à l'exposition nationale suisse à Lausanne en 64 et Rolf Liebermann présente ça. Gwen Jamois, quand on écoute ce résultat, on a l'impression d'entendre, on en parlait auparavant, un drum and bass actuel. C'est hyper moderne dans la rythmique en fait. Mais là, ce sont des gens qui jouent les instruments ?
Ah non, c'est programmé, automatisé, on n'a qu'à dire. Et apparemment, on pouvait voir ça en direct à l'expo, tous les heures. Paf, les machines se mettaient en route et personne ne comprenait. Sur l'autre face du disque, il y a une version jazz qui est un peu plus classique, mais aussi absurde.
À savoir, quand on entend ça aussi, ça peut faire des parallèles avec les recherches qui se faisaient aux États-Unis au même moment, c'est-à-dire cette présentation de ces objets du quotidien placés comme des sortes de happenings, ou plutôt des installations qu'on venait manipuler ou qu'on laissait sonner. On parlait auparavant de toutes les recherches qui ont pu être faites. Prenons John Cage, là nous sommes pile dans cette période-là où il est vraiment dans un mouvement global, où on travaille sur la matière, sur les sons. Cage, pour vous, justement, est quelqu'un qui a été vraiment précurseur aussi de tous ces mouvements-là, avec l'objet, la matière, et en particulier l'enregistrement ?
Oui, je pense que c'est quelqu'un qui quand même était, déjà était ultra moderne dans sa pensée, et il a vite compris que le disque et les platines étaient un outil sonore comme un autre, tout simplement parce qu'il est équipé d'un micro RIAA, je crois qu'il rajoute 50 dB et simplement en touchant une platine, ça fait un bruit. Bon, après, le vinyle peut être manipulé dans sa vitesse, dans son timbre, etc. Alors, c'est normal qu'il a utilisé ça comme on peut aujourd'hui utiliser un synthétiseur. Je crois qu'avant ça, Edgar Varèse avait fait des tests, justement, en travaillant avec les micro-sillons. Mmh. Alors, par contre, tristement, il n'y a plus rien qui existe.
Oui, c'est des choses qui ont été perdues.
Et il ne faut pas oublier, bien sûr, les grands messieurs de la musique concrète qui, avant d'avoir la bande magnétique, qui est arrivée quand même un peu plus tardivement, tous leurs expériments, leur montage, leur travail étaient sur 78 tours.
Là, on parle de musiciens qui vraiment travaillent sur le 78 tours en tant que musicien.
D'accord. Et c'est des musiciens qui n'ont pas peur du bruit, justement. Mmh. Et c'est important de dire ça. C'est pour ça que j'ai essayé d'amener des exemples un petit peu ludiques et rigolos. Parce que c'est, encore une fois, c'est un support qui est fragile et générateur de son et de bruit. Et c'est ces personnes-là, bien sûr, ont bien compris que la musique, ça va beaucoup plus loin que...
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
Voilà.
On parlait de musiciens, donc, et là, on peut dériver un petit peu vers tout ce que les plasticiens ont apporté aussi sur notre regard sur le vinyle en tant qu'objet. Par exemple, il y a Molinage avec le travail au Bauhaus qu'il a fait au début du XXe siècle, avec cette question aussi de ce micro-sillon. Qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Voilà, très, très, très bonne idée. Encore une fois, il faut détourner les objets de tous les jours. Et je pense particulièrement à Milan Knizak, un monsieur tchèque qui a, début années 60, a décidé de travailler avec le vinyle en tant qu'objet de création, non seulement visuel, mais sonore aussi. Et il s'est amusé à reconstituer des disques cassés, sciés, découpés, pour en créer quelque chose de nouveau. Plus tardivement, il a fait les mêmes expériences avec des broken cassettes. Je crois qu'il a même fait des broken CD.
Des broken CD ?
Oui, je crois bien.
J'ai envie d'entendre ce que ça donne. On va écouter d'abord le broken music, donc sur des vinyles découpés, recollés par Milan Knizak. Thank you. Milan Knizak, une sorte de performance sur vinyle reconstitué, une broken music comme il appelle. Gwenjamois, quand on écoute cet enregistrement, en fait, c'est un collage constant de plein de petits bouts de vinyle. On l'entend et puis surtout, on entend le diamant qui n'arrête pas de sauter, de se cogner à des obstacles en fait, devant lui. Il y a une plasticité là, du son qui se crée.
Bien sûr, alors ces disques-là, il ne faut pas les écouter sur votre système audiophile à la maison, parce que votre diamant risque de souffrir. Mais encore une fois, c'est un artiste, un plasticien... tiré musicien aussi, je pense, qui n'a pas peur du bruit et d'ailleurs qui travaille avec joie ce matériel. Et c'est vraiment exceptionnel, moi je trouve ça magnifique. Et j'ai hâte d'essayer de mettre un de ces disques sur ma platine pour voir comment réagit le bras, le diamant, etc. Après, j'ai déjà vu des performances justement de musiciens relativement connus qui faisaient des choses comme ça, genre, au lieu de jouer des disques, ils jouaient des disques...
De scie circulaire ou des choses comme ça.
De scie circulaire, etc. Ça, je crois que Aphex Twin faisait ça il y a assez longtemps et c'était bien absurde. Et ce qui est intéressant, ça balance sur un autre côté de ce support, c'est que depuis que le support existe, plusieurs artistes et musiciens se sont penchés sur l'idée de détourner ce support en utilisant d'autres matières. Ce qui veut dire la gravure, le micro-sillon, mais sur quelque chose de moins propre. Alors, j'ai constaté des disques en chocolat, des disques en chewing-gum, des disques en bois.
Des disques en chewing-gum ?
En chewing-gum.
C'est de l'horreur pour le diamant, ça va.
C'est l'horreur pour le diamant, effectivement. Mais si c'est un goût qu'on aime bien, on peut toujours le manger après. Et même, je vois récemment, beaucoup de personnes utilisent des imprimantes 3D pour imprimer des disques ou des imprimantes laser pour graver dans du papier ou du bois, etc., pour refaire ces disques, pour justement travailler avec la texture et le bruit sans peur. Ce qui est très intéressant, il y a une compagnie américaine actuellement qui vient de commercialiser un moule à vinyle, c'est-à-dire qu'on peut prendre nos disques et les mettre dans ce moule avec de l'eau et dans le réfrigérateur, dans le freezer pendant quelques heures. Et en sortant ce moule, on a un disque en glace, on a un facsimilé de notre disque en glace à écouter chez soi.
Pendant peu de temps.
Pendant peu de temps, bah, ça dépend s'il fait froid. Et...
une musique éphémère finalement.
Ah bah, c'est totalement l'esprit de Milan Knizak aussi et de Fluxus.
Ah, parce que oui, Milan Knizak a participé au mouvement Fluxus,
bien sûr,
insufflé par John Cage, Nam Myung Paik ou Yoko Ono.
Exactement, et ce côté éphémère, autodestructeur, on fait partie bien sûr.
Là, quand on écoute l'extrait qu'on vient d'écouter de Milan Knizak, on voit aussi toute la filiation qu'on peut avoir derrière avec ce qu'on appelle les turntablistes en anglais. Alors, il y a un terme en français qui est platiniste, je crois que c'est ça. C'est-à-dire ceux qui jouent avec la platine comme un objet sonore. Je pense à Christian Marclay en particulier, un plasticien à la fois américain et suisse, puis autrement Tomoyoshi Hide, dont on parlera dans notre Zoom juste après. Est-ce que vous y voyez justement, vous, en tant que praticien du DJing, une source d'inspiration dans votre manière de diffuser de la musique, de jouer avec la platine comme d'un instrument ?
Bien sûr. Après, j'utilise quand même le disque, le disque lui-même, pas la platine nécessairement, parce que la platine, c'est vrai, ça reste un grand micro. Mais bien sûr, parce que c'est totalement modulable, déjà simplement de pouvoir changer les vitesses en temps réel, sans appuyer un bouton, en touchant, en avoir...
En créant une pression sur le vinyle, en
voilà,
fait, on peut changer
voilà.
la vitesse.
En rajoutant des objets sur la platine, en freinant... C'est ludique et surtout c'est très créatif et c'est en temps réel. Ça reste un instrument de musique, je pense. Mais faut pas avoir peur du bruit.
Faut pas avoir peur du bruit. Tout est bruit pour qui a peur. C'est la fameuse phrase qui avait été sortie par Pierre-Albert Castanet pour son ouvrage sur la notion de bruit.
C'est bien dit.
C'est bien dit. Et là, vous êtes venu avec un disque justement qui s'appelle, qui est un disque qui nous parle du bruit en tant que quelque chose qui peut nous faire peur dans notre société actuelle.
Bah, je trouve que c'est d'actualité. Le disque en tant que danger. Enfin, le disque en le bruit dans le disque, en tant que danger. Enfin, c'est surtout le bruit dans le monde du travail. C'est un disque, encore une fois, promotionnel, des panneaux acoustiques de Saniton, qui datent, à mon avis, du tout début des années 60. Et je trouve que C'est assez rigolo, encore une fois, et je pense que ça va parler à nos auditeurs, justement, ce danger du bruit.
Allô? 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 Allô?
Ceci n'est pas un ballet d'avant-garde, ni un essai de musique concrète. Tous ces bruits sont ceux qui martèlent plus ou moins inconsciemment vos oreilles 24 heures sur 24. Rançon de la vie moderne et du progrès mécanique, le bruit grignote peu à peu nos rares instants.
Allô?
De silence.
Allô?
Il s'infiltre à tout moment, jusqu'au plus profond de nos maisons, depuis les trompes des chasses d'eau du voisin d'au-dessus. Les crépitements des machines à écrire d'à côté. Les radios des autres. Les vibrations du passage de l'autobus. Les gargouillis des tuyauteries. Sans oublier les boueux dès le petit jour. Et parfois, le départ en trompe de la moto de l'employé d'au-dessous. L'accoutumance au bruit n'empêche pas l'apparition d'une fatigue progressive inapparente qui détruit l'équilibre nerveux déjà si difficile à maintenir dans nos agglomérations urbaines. Mal reposé de la veille, chaque matin, l'atelier ou le bureau nous accapare avec son ambiance bruyante qui oblige à un surcroît de tension nerveuse. En peu de temps, la fatigue apparaît, la tension au travail diminue, la productivité et la rentabilité de chacun s'effondrent. Mais supposez cet atelier correctement insonorisé, pas de réverbération exagérée. Le bruit de chaque machine s'amortit à sa naissance, l'ambiance sonore est confortable. Et chacun sait que le confort dans le travail est synonyme de travail productif. Le bruit coûte toujours trop cher. Imaginez ce bureau en plein centre de Paris. Croyez-vous qu'il soit possible de réfléchir, de se concentrer, de prêter attention à son travail pendant longtemps, au milieu d'un tel vacarme?
Le bruit coûte beaucoup trop cher. C'est sur ces quelques mots qu'on va se quitter, Gwenjamoy. Merci d'être venu avec ces petites perles comme ça de votre collection de vinyles. Donc on est passé vraiment du bruit sur le vinyle, donc l'objet bruit, jusqu'au comment on parle du bruit sur le vinyle. Vous me parliez aussi d'une collection, les X-Ray Audio, c'est ça? Enfin, c'est des vinyles...
On parlait tout à l'heure de supports insolites, de la gravure, du micro-sillon. Et un truc qui est vraiment impressionnant, parce que ça a une texture vraiment surprenante, c'est à l'époque en Russie, beaucoup de disques étaient totalement interdits. Et il y avait des disques pirates créés et vendus sous le manteau, bien sûr, sur des radios, sur des X-Ray. Et ça donne une texture et un son très étrange. Et on s'imagine qu'il y a peut-être un petit peu de la personne qui en ressort.
La personne qui était sur la radio.
Voilà, exactement.
Alors tout ça, on mettra des liens sur le site internet de l'émission.
J'espère, parce que c'est quand même assez impressionnant.
Pour pouvoir écouter justement tous ces enregistrements qui ont été numérisés depuis, évidemment. Voilà. On peut suivre votre activité également, Gwenjamoy, en tant que compositeur et DJ, avec vos diffusions de différents disques. Alors je ne sais pas si vous diffusez votre bruit est beaucoup trop cher, mais bon, on restera au courant de vos activités. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation et à très bientôt.
Merci à vous.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
Je
ne peux pas dire que je joue toutes sortes de bruits, ou toutes les sortes de bruits.
A lot of different kind of way to find noise.
Je cherche simplement toutes les manières possibles de produire du bruit.
Machine has a noise.
Et toute machine fait du bruit, a ses propres bruits.
Always the modern technique try to.
Et toutes les techniques modernes finalement sont conçues pour effacer ces bruits, les faire disparaître.
I just doing opposite thing.
Et je fais absolument le contraire. J'essaie de révéler ces bruits.
Zoom sur Consume Raid de Ground Zero. Deux formules inlassablement répétées, comme des cris, jouées sur le ojok, hautbois traditionnel coréen. Le guitariste et turntabliste Otomo Yoshihide utilise ce sample, cet échantillon jusqu'à l'outrance, l'obsession. Dans cette œuvre, Consume Red, enregistrée en 1997 avec son groupe Ground Zero, Otomo Yoshihide nous fait entrer pas à pas dans son univers entre noise et free jazz. En samplant le musicien Kim Suk-chul, un réel monument de la culture coréenne, Otomo Yoshihide provoque, magnifie et à la fois désacralise ce qu'il emprunte. Comme lorsqu'il insère progressivement un joueur de shamisen, luth traditionnelle japonais, au son très sec. Juxtaposant le hautbois coréen obstiné, le luth shamisen et l'amoncellement progressif de bruit, de faux contacts, d'éclats noise, Otomo Yoshihide nous pose la question de ce qui fait bruit. Est-ce que ce sont ces impacts hyper forts de machines et de guitares? Ou est-ce cette mélodie minimaliste et répétitive de plus de 50 minutes, dont l'inlassable litanie finit par irriter?
I love something like uncontrollable things.
J'aime bien les choses qui ne sont pas contrôlables. Produire des choses non contrôlables.
Then I started to make a focusing for the noise, not like a noise music.
Alors j'ai commencé à m'intéresser un peu au bruit, mais pas la musique bruitiste, mais plutôt au bruit des machines.
Thank you. À partir de maintenant, le groupe Ground Zero s'installe pas à pas. Chacun prend sa place, annonçant peut-être ce qui va arriver. Dans un élan de plus de 25 minutes, on attend une libération. On cherche à passer à autre chose que ce hautbois insistant. Et ce qui devait arriver, arriva. Dans un fracas chaotique, tous les membres du groupe, y compris les deux batteurs, donnent une nouvelle impulsion à la litanie coréenne. L'intégrant dans un flux aux limites du free jazz le plus extrême, Consume Red se transforme en une noise rock, à mi-chemin entre la Japanoise des années 80 et le Naked City de John Zorn. Avec Consume Red, Otomo Yoshihide donne une sorte de disque manifeste de la noise électronique des années 90, qui aujourd'hui encore crée des émules dans les manipulations de parasites, faux contacts et bruits extrêmes. De notre troisième épisode du Cri du Patchwork sur le bruit. Merci à Perrine Mingui, virtuose de la réalisation de ce Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui à la technique Jean-Michel Coqui. Merci à Flora Sternadel pour la composition du site internet et les coups de rush intenables que je lui impose dans la recherche de sons totalement indénichables. Nous continuerons notre parcours dans le bruit la semaine prochaine en compagnie de Sébastien Béranger, compositeur et pédagogue auprès de la Muse en Circuit, un lieu fait pour le bruit. Une occasion de parler de comment on fait du bruit pour mieux écouter autour de soi. D'ici là, rendez-vous sur le site internet de l'émission pour agrémenter votre réécoute, car vous pouvez dès à présent podcaster l'émission pour mieux l'entendre, mieux la disséquer, mieux la digérer. Chers écoutants.
Si je fais 1, Togaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire, 1, parap, 2. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est 17h, l'heure de passer la main à Arnaud Merlin et son All That Jazz. C'est à vous, Arnaud.